Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais j'ai vécu ça vraiment comme cette invitation, vraiment, cet appel à venir. Et ce qui m'a frappé ce matin, c'était de venir sans masque, sans faux semblant, la chanter. Et ça va aussi dans le sens de ce que j'aimerais vous partager ce matin. Un petit peu comme la louange, on va entrer tranquillement et on va aller plus en profondeur dans cette présence de Dieu centrée sur Jésus et finalement sur nous aussi. Alors voilà, je continue donc saison 2 après la saison 1 sur ce thème d'entrer dans le repos de Dieu. Voilà. Est-ce que vous êtes reposé ce matin ? Ah, comment ça se voit là ? Ça va ? Vous êtes bien ? Vous êtes bien ? Vous voulez bouger un petit peu ? Vous étendre ? Voilà, prêt à entrer dans le repos avec moi ? Voilà. D'accord. Alors, la semaine passée, j'avais abordé la notion du sabbat. Vous vous rappelez, donc, on a appris plusieurs choses la semaine passée. Donc, c'est ce jour, il faut s'arrêter. Ce jour dans la semaine, 6 jours, on travaille. Le 7e, on s'arrête. C'est ça, le sabbat. Et ce qu'on a appris, c'est que c'est un commandement de Dieu. Hein, la semaine passée, peut-être je résume parce que je vois beaucoup de nouvelles personnes aussi, peut-être qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit dimanche passé, je rappelle en quelques points. Donc il y a ce commandement de Dieu qui nous invite à nous arrêter, c'est ça que ça veut dire sabbat, s'arrêter. Et donc c'est cette notion en fait qui est un commandement finalement, ça fait partie des 10 commandements. Alors est-ce qu'on le fait vraiment? Finalement c'est un commandement que Dieu nous demande. Comment l'appliquer aujourd'hui, ce sabbat? Est-ce qu'on doit s'arrêter vraiment 24 heures? Est-ce que ça doit être le dimanche? Est-ce que ça doit être le samedi? Parce que la Bible dit que c'est le samedi. Donc, c'est une vraie question qu'on a à se poser. J'aimerais dire qu'entre l'ancien et le nouveau, il y a des choses qu'on doit continuer à faire et il y a des choses qu'on ne fait plus comme dans l'ancien. Il y a une continuité entre l'ancien et le nouveau testament, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais il y a aussi une discontinuité, c'est-à-dire il y a des choses nouvelles. Il y a une rupture aussi entre l'ancien et le nouveau. C'est important d'avoir ça à l'esprit quand on lit l'ancien et le nouveau. Par rapport au sabbat, il y a une rupture très forte que Jésus a faite. Il n'est pas ressuscité un samedi, pourtant c'était le jour le plus important. En tant que juif, avec tous les disciples qui étaient juifs, ça aurait été logique qu'il ressuscite le jour de la victoire, de la résurrection, se fasse un samedi. Le jour où tout le monde aurait été même là pour le voir, les disciples. Non, il est ressuscité un dimanche. Les premiers chrétiens, dans le livre des Actes, ne se réunissaient pas le samedi. Mais on n'a pas le temps de développer tous ces textes, mais il est montré qu'ils se réunissaient le dimanche, déjà dans le livre des Actes. Donc, il y a une vraie rupture entre l'ancien et le nouveau, mais il y a une continuité aussi. Et comment ce Dieu de l'Ancien Testament qui a ordonné cela, comment le vivre dans le nouveau aussi, comment dans cette nouvelle alliance? Et c'est pour ça que j'ai abordé ce sens profond du sabbat. Que veut dire le sabbat? Ces 2 dimensions du sabbat que j'avais abordé dimanche passé, cette notion créationnelle qu'on retrouve dans la première version des 10 commandements, qui est dit que Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est arrêté le 7e, de savoir s'arrêter. Et la 2e dimension du sabbat, qui est une dimension rédemptrice. Dans ce moment d'arrêt, on est appelé à sanctifier ce jour et à nous souvenir qu'on a été esclave en Égypte. Donc finalement, à vivre ce temps d'arrêt, pas juste pour moi, mais avec Dieu. Ça veut dire ça, sanctifier le sabbat. C'est mettre à part ces temps d'arrêt dans ma vie. Et la nouveauté entre l'ancien et le nouveau, c'est que ce n'est pas limité seulement à 24 heures, mais c'est à tout moment qu'on peut entrer dans ces temps de repos avec Dieu. Ça peut être 1 minute là, 10 minutes là, 24 heures, faites-le, c'est bien. Débranchez 24 heures votre téléphone, débranchez vos activités pendant 24 heures, c'est bon. Mais ça peut être une semaine. Ça peut être une semaine de jeûne et prière. Ça peut être tellement de choses. En fait, on récupère le principe, mais on l'élargit. Et d'ailleurs, c'est plus difficile à le vivre réellement, puisque c'est des fois plus facile de suivre, de dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on est appelé à être conduit par le Seigneur pour entrer dans ces temps d'arrêt. Entrer dans ces temps de repos, c'est possible en tout temps. en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus tenus à une limitation de temps et de lieu à la manière des Juifs. D'ailleurs, c'est ce qui irritait déjà du temps de Jésus. C'est que Jésus n'appliquait pas, en tout cas ses disciples, n'appliquaient pas totalement ce qui était vécu à l'époque. Et ça énervait les chefs religieux. Ça énerve le religieux, vous savez, quand on est dans la relation et qu'on est dans la vie de la loi, le sens de la loi, ça énerve l'esprit religieux. Il y a de nombreuses scènes où les disciples ne respectent pas le jour du sabbat. Et lors d'une de ces scènes, Jésus va leur répondre de manière magistrale en disant que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce n'est pas les règles qui ont été faites pour l'homme. Mais, enfin, c'est le sabbat, il est là pour être au service de l'être humain, dans son sens profond. Et une bénédiction pour l'être humain, pas quelque chose qui asservit et qui devient une loi qui tue la vie. Et Jésus va dire, je suis le maître du sabbat. Je suis le véritable interprète de la loi. Je suis le vrai herméneute de la loi de l'Ancien Testament. Voilà qui est Jésus. Jésus est la clé pour tout comprendre. Paul disait même, dans une de ses épîtres, il disait la chose suivante, que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune ou de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais la réalité est de Christ, est en Christ. La réalité est en Christ. Alors ce matin, j'aimerais m'arrêter sur vous poser une question. En quoi Jésus est le maître du sabbat? En quoi Jésus nous invite, en quoi il est cette clé pour comprendre et pour nous faire entrer dans le sabbat? Et j'aimerais méditer avec vous ce matin un texte qui semble pour moi une clé importante pour comprendre cela. Ça va être affiché, c'est dans Matthieu au chapitre 11 et les versets 28 à 30. Je vous invite à lire avec moi ces versets. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Quel texte merveilleux, n'est-ce pas? C'est une invitation encore ce matin. Venez. Alors j'aimerais vous inviter à nous approcher de Jésus et de ce qu'il nous dit au travers de ces quelques versets. Tout d'abord, il y a peut-être un mot, peut-être tout le monde comprend, ou peut-être certains ne comprennent pas, c'est le mot « joug ». C'est un mot un petit peu technique. À quoi ça fait référence? Alors tout simplement, voilà, il y a une image qui apparaît. On voit que c'était cette pièce de bois, ce cadre de bois qui joignait deux animaux, généralement des bœufs ou autres, et qui les mettait ensemble pour pouvoir faire une action, pour pouvoir travailler au service de leur maître, labourer, tirer quelque chose. Donc ça, c'est le sens commun. Mais la signification du joug apparaît tout au long de la Bible et a une signification plus profonde qui rejoint le sens commun, qui est le joug, c'est se soumettre à quelqu'un. Se soumettre à quelqu'un, à un autre. Les bœufs sont au service du maître et ils font le travail pour leur maître. Et Paul reprend cette métaphore biblique à d'autres endroits pour dire à un moment donné dans Corinthiens, qu'il ne faut pas former un attelage disparate, c'est-à-dire ne pas se mettre sous le joug avec quelqu'un d'étranger, de non-croyant. Hein? Donc il reprend cette image du joug, hein, cette idée de soumission. Quand on s'associe à quelqu'un, on se soumet quelque part à quelque chose, et si ce n'est pas Dieu, ben il dit non, il ne faut pas faire des assemblages hétéroclites. Mais ça peut être un sens positif, où quand Paul parle d'un fidèle collègue qui a travaillé avec lui, il prend ce mot « joug » aussi. C'est-à-dire qu'ils ont porté le joug du ministère ensemble. Ils ont été soumis au Christ dans ce ministère. Ils ont porté la charge du ministère. Donc, vous voyez cette notion qui est là, se soumettre à quelque chose. Et je pense qu'on est toujours sous le joug de quelque chose. Spirituellement, Dieu a fait les choses en ordre, Dieu a fait un monde ordré, avec des autorités, des hiérarchies, et on est toujours sous le joug de quelque chose. Ça peut être moi, mon propre chemin, mon propre fardeau, mon propre joug, ça peut être le joug de ce monde, ça peut être le joug du prince de ce monde, ou ça peut être
Christ. Christ est, nous propose de porter et de prendre son joug. Et là, c'est autre chose. Le joug que Christ nous propose, il n'est pas oppressant, comme les autres. Il est dit qu'il est doux et humble de cœur, le Seigneur, et son joug est léger. Si son joug est léger, c'est que les autres jougs sont oppressants, par opposition. Et quand il nous est dit que Christ nous apporte le vrai repos, qu'il est le maître du sabbat, c'est ça cette invitation qu'il nous fait, parce qu'il nous aime et que son joug est léger, il veut nous invite à porter son joug qui n'est pas quelque chose de pesant. Tandis que les autres jougs sont pesants. L'autre propriétaire, le propriétaire de ce monde, le prince de ce monde, le pharaon de ce monde, veut faire peser sur nos vies des jougs pesants. Des fois à notre insu, des fois pas. Des fois parce que nous lui laissons, par le péché, nous lui donnons le pouvoir sur nos vies pour poser des jougs sur nous. De différentes manières. Et nous subissons ces jougs, parfois sans nous en rendre compte, parfois en nous rendant compte, bien sûr. Jésus nous encourage à laisser de côté les nombreux jougs qui sont sur nos vies et à n'emporter qu'un seul, le sien. Son joug est facile à porter. Son bras est aimant. Même s'il met son bras sur nos épaules et que ça peut avoir un certain poids, c'est un bras aimant, un bras qui enlace, un bras qui nous invite. C'est une invitation, comme l'invitation du sabbat, je disais la semaine passée. Dieu a cessé ses activités le septième jour pour laisser un espace à l'être humain pour le rencontrer. Il a arrêté de travailler pour rencontrer l'être humain le septième jour. C'est un espace qui s'ouvre dans lequel il nous invite à venir à lui, trouver la paix et le repos. Waouh ! Sous son bras, on peut discuter de tout, on peut le questionner, observer sa manière de vivre, c'est important, le suivre là où il va. Jésus s'offre aussi à nous comme un modèle. Et nous pouvons apprendre de lui la manière dont il a vécu, la manière dont il a été fils. Nous pouvons apprendre en tant que fils et fille du roi des rois à devenir heureux et heureuse. Amen. C'est cette invitation-là qui est faite dans ce texte. J'aimerais vous donner un exemple de ce modèle de Jésus. J'aimerais prendre deux exemples dans la Bible, qu'on puisse s'arrêter. On pourrait en prendre tellement, mais j'aimerais en prendre deux qui puissent vraiment vous rester et que vous pourrez lire. La première histoire, c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 6. Il n'y a pas besoin de lire, mais vous lirez à la maison tranquillement. Il est avec ses disciples, Jésus. Donc, il les envoie au début du chapitre, c'est l'envoi des 12 qui vont en mission. C'est dans les versets qui commencent, je crois que c'est vers 12, 15, par là. Il les envoie en mission deux par deux pour prêcher l'évangile et guérir les malades, libérer les gens, extraordinaire. Et un peu plus loin dans le texte, il est dit, dans les versets qui suivent, je crois à partir du verset 30 à 32, ils sont heureux de pouvoir revenir vers Jésus et lui raconter tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont vécu. Ils ont expérimenté ça, ils ont prêché à des gens ont été guéris, j'imagine l'excitation dans laquelle ils étaient, et ils font leur rapport à Jésus. Ils lui racontent toute l'histoire et la joie qu'il y avait. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire à ce moment-là précis ? Jésus nous surprend toujours par ce qu'il nous dit. Moi, il me surprend toujours. Il va leur dire ceci. Au verset 31 du chapitre 6 de Marc, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup de personnes allaient et venaient, donc le lieu est agité, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. » Jésus voit qu'ils ont besoin de repos et de manger pour leur bien-être. Il n'est pas là, il n'est pas intéressé par leurs exploits. Il est intéressé à leur bien-être. Et il les invite à aller dans un lieu calme, le désert, plutôt que le lieu là où ils sont, qui est un lieu où il y a du mouvement, il y a de la vie. Peut-être des gens les avaient suivis en étant guéris par eux. Il y avait, je ne sais pas, il y avait une effervescence qui était là. Et vous savez, quand on est dans l'adrénaline, on oublie de manger, quand on vit des choses extraordinaires, je ne sais pas si vous l'avez vécu, des moments dans votre vie, mais il y a tout qui s'arrête, tellement c'est extraordinaire ce que vous vivez. Et ils n'ont même pas pris conscience qu'ils avaient besoin, qu'ils avaient des besoins. Mais Jésus voit tout. Et Jésus voit leurs besoins. Et il les prend à l'écart. Vous savez, Jésus prend compte de mes besoins avant mes réussites. La réussite qui est source de prestige. J'ai guéri quelqu'un, j'ai vécu ici. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Dieu s'intéresse à moi, à toi. Avant toute chose, Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu peux faire pour lui. Il s'intéresse à toi et à ce cœur à cœur. C'est extraordinaire. C'est ça qu'il recherche. Il recherche ton cœur. Il recherche ta personne. Il répond à mes besoins physiologiques. Il prend soin de toi. Il me donne du repos parce qu'il m'aime. Prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est notre Seigneur. Amen. Ça, c'est la personne qu'on suit. C'est extraordinaire. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus a eu la capacité à voir leurs besoins et à s'occuper d'eux ? Parce que parfois, dans nos vies, quand on ne s'arrête pas, comme les disciples qui étaient dans cette action, qui étaient dans le service, qui vivaient des choses extraordinaires, parfois, on ne voit pas qu'on a besoin de s'arrêter. J'écoutais dernièrement à Transvision, il y a eu un enseignement sur le burn-out par rapport au pasteur, parce que ça touche pas mal le milieu aussi pastoral. C'est une maladie de ce siècle. Et il montrait, en fait, quand on est proche du burn-out, on est comme quelqu'un qui se noie. Vous savez, quand on va se noyer, on se débat pour ne pas couler. Et juste avant de couler, on se débat encore plus parce qu'on veut s'en sortir. Et le burn-out, c'est difficile à voir parce que justement, juste avant que ça arrive, vous êtes en train d'en faire plus encore que d'habitude. Donc personne va vous dire, personne ne voit. Et à un moment donné, c'est l'élastique qui casse. C'est le noyau qui coule. Et le Seigneur, lui, il nous connaît. Devant lui, il n'y a pas de faux-semblant. Il connaît nos vies. Et heureusement qu'il intervient avant. Et je crois que c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a eu cette capacité à voir leurs besoins. Parce que les disciples ne l'avaient pas vu. Et je pense qu'il a eu cette capacité à voir leurs besoins aussi pour une autre raison. C'est que Jésus appliquait cela dans sa propre vie. Il appliquait un principe qui était de se mettre à l'écoute de son Père, et à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ce que le Seigneur lui dit, à l'écoute de ce que le Seigneur veut lui montrer. Et pour ça, il y a une deuxième histoire qui, ce coup-ci, ne concerne pas les disciples, mais concerne Jésus lui-même. Et cette deuxième histoire, c'est toujours dans l'évangile de Marc, mais c'est au début du chapitre, et c'est au chapitre 1, au début du livre, pardon, et c'est au début du ministère de Jésus. Vous savez que Jésus a commencé son ministère au bord du lac de Galilée, hein, le lac, et notamment dans la ville de Capernaum. Il a commencé là son ministère. Et dans ce chapitre 1, il décrit tous les gens qui venaient être guéris par Jésus. Le texte dit que toute la ville venait, vous imaginez, parce qu'il y avait des guérisons, il y avait des gens qui étaient opprimés et Jésus les libérait. Et vraiment, il y a une foule qui s'est approchée. Et c'est dit dans le texte, ça continuait jusque tard le soir, et tout le monde s'est couché, tout le monde est allé au lit, tout le monde allait se reposer, et alors que tout le monde dormait, Jésus s'est levé, et parti prier son Père, nous dit le texte. Tout le monde dormait, et Jésus est là. Il a pris un temps avec son Père céleste, un temps de sabbat, et il est là avec lui, et il reçoit des instructions. Et là, il va se passer quelque chose d'intéressant au niveau du texte, c'est que D'un coup, il y a Pierre qui trouve Jésus parce qu'il dit « Mais tous te cherchent !» On est tous en train de te chercher là. À Capernaum, il y a plein de guérisons, les gens demandent, nous on ne sait pas quoi faire. On est là, les 12, on ne sait pas quoi faire. Viens Jésus, il y a des besoins, il y a des choses à faire. Viens. Et là, Jésus de nouveau va répondre de manière étonnante, comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va dire à cette interpellation de « tous te cherchent » En Marc 1, verset 38, il va leur dire « Allons ailleurs ». Dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Fin de non-recevoir. Jésus est en train de dire, je ne suis pas venu guérir tout le monde ici, répondre à tous les besoins. Ah bon ? Tu n'es pas venu répondre à tous les besoins ? Non, il faut que j'aille ailleurs. Alors, Jésus répond à nos besoins, bien sûr, il est là, mais il était limité, il avait un corps. Dieu était limité, il fallait qu'il avait une mission. Et Jésus ne va pas se laisser submerger par la pression de Pierre, de la foule, et même la pression des besoins, aussi honorable que ce soit. Jésus va dire non. Il va mettre une limite. Vous savez, Shabbat, c'est stop. Si je dis non. Ça, je ne peux pas. Et il a fait ça, vous savez pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il avait conscience de la réalité de ses limites et de son ministère et de son appel. Et ça, c'est très important, mes amis, très important de comprendre. Dans cette étude sur le burn-out, il disait que les pasteurs, la première cause de burn-out pour les pasteurs, c'est quand ils répondent à un cahier des charges qui ne correspondent pas à leur appel. Ils répondent à des besoins qui ne correspondent pas premièrement à leur appel. Si vous prenez un évangéliste et que vous le mettez à faire de la relation d'aide, il va être malheureux et les gens vont être malheureux avec lui. Parce que ça va déménager, hein. Si vous mettez quelqu'un qui fait de la relation d'aide dans la rue, il ne va peut-être pas être à son aise. Vous comprenez ? On doit comprendre quel est notre appel et notre mission. Et la mission de Jésus, à ce moment-là, ce ne fait pas de répondre à tous les besoins de cette ville dans laquelle il était, mais c'était d'aller prêcher l'évangile et d'aller mourir à Jérusalem pour le pardon de ses péchés. Et il avait compris le sens de sa mission et de son appel, et il s'y tenait à ça. Jésus a dit stop, c'est choquant, hein ? Stop, non, à des gens qui avaient besoin d'être guéris, des gens qui avaient besoin d'être délivrés, qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Et Jésus a pris du temps avec son père, il a pris ce temps de sabbat, il a déposé le joug qu'on voulait lui mettre sur ses épaules, un joug illégitime. Et il a pris le joug de son père, le seul légitime. J'ai une mission, je dois aller ailleurs. Et c'est pourquoi il nous invite à le suivre comme modèle. Pas à mourir à Jérusalem, je vous rassure, mais à le suivre comme dans ce modèle-là. Quel est ton appel ? Quelle est ta mission ? Quelles sont tes limites ? Dieu est illimité, je le disais dans la notion du sabbat, la dernière fois. Nous sommes limités. Nous avons besoin de comprendre nos limites et de savoir dire non. Et savoir surtout où aller. Le secret du repos et la justesse des décisions de Jésus vient du fait qu'il ne faisait que ce que son père lui montrait. Il marchait sur les directions que le père et l'esprit lui montraient. Il marchait par l'esprit et non par la chair. Marcher par l'esprit et non par la chair. Marcher par l'esprit, ça peut être répondre des fois à un besoin, prier pour quelqu'un, mais des fois, marcher selon la chair, c'est aussi prier pour un besoin que Dieu ne nous a pas demandé. Il faut avoir des directions que le Seigneur nous montre. Et Jésus était dans cette soumission, dans ce joug total, total avec son Père. C'est ce qui donne à Jésus une grande liberté vis-à-vis de tous les autres jougs qu'on pourrait, de toutes les pressions humaines. Quand on a compris qu'on est aimé de Dieu, alors on n'a plus besoin d'être aimé et accepté des autres. Et on a la victoire sous le joug du rejet. Quand on a compris que Dieu est notre juge et qu'il sait toute notre vie, et c'est lui qui nous juge, on est délivré, vous savez de quoi ? Du jugement des hommes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On est délivré de tous ces jougs. Et cette vraie liberté, elle est dans cette totale dépendance au Père. Comme il reçoit du Père tout ce dont il a besoin, il peut lâcher prise face aux autres et rester libre à leur égard. Vous savez, la seule liberté que nous pouvons acquérir, c'est la liberté au travers de notre dépendance totale avec Dieu. Et c'est deux choses contradictoires dans la même phrase que je suis en train de vous dire. Dépendance, liberté. Dépendance, liberté. Et c'est totalement contradictoire avec l'esprit, enfin ce que la liberté veut dire dans la société aujourd'hui. C'est une illusion, la liberté. Et aujourd'hui, on vous vend la liberté comme fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, selon tes impulsions intérieures. C'est ça la liberté aujourd'hui. Et cette liberté-là est une illusion. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est toujours sous le joug de quelque chose. Et à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va venir nous enlever cette liberté, pensant qu'on est libre. C'est dans cette dépendance totale au Père que nous trouverons cette vraie liberté. Nous sommes appelés à porter ce joug du Père et à entrer dans cette liberté qui nous apportera le repos. C'est un processus, c'est une marche dans notre vie, c'est quelque chose qu'il faut travailler dans notre marche avec Jésus. Il va nous montrer comment nous en débarrasser, comment nous débarrasser de tous ces jougs, toutes ces pressions illégitimes et à ne regarder qu'à lui, à nous débarrasser des attentes des autres et à ne regarder qu'à ses attentes et à ses besoins à lui. Parce que c'est seulement ce joug-là que nous sommes appelés à porter. C'est le joug du Seigneur. Ses attentes à lui, ses besoins à lui. Le Seigneur a des besoins. Le Seigneur veut faire des choses. C'est ce joug-là que nous sommes appelés à porter. Vous avez dit que ce serait des paroles d'intimité, de proximité. C'est dans le 1 à 1 avec notre Père que nous pouvons discerner quels sont les jougs qui sont sur nos vies. Et là où nous pensons être libres, en fait, nous ne le sommes pas. La liberté. Je pensais notamment au monde qui nous fait croire que la vraie liberté, c'est faire ce que je veux et comme je veux et comme j'ai envie, de m'affranchir de Dieu et de son joug. C'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui, une fois, a donné son témoignage, et ça m'avait frappé, elle avait témoigné aux jeunes aussi. Elle parlait de comment Dieu l'avait... comment Dieu l'avait libérée, en fait, des jougs qu'elle portait. Elle a eu une vie déstructurée, elle a été très jeune, elle a habité seule, à l'âge ado, donc elle a eu la vie qu'elle voulait. Donc, vous voyez, les jeunes, ils étaient là, waouh ! Elle n'avait pas ses parents à 16 ans, elle vivait dans son appart à Lausanne, trop bien ! Ils étaient là, il n'y avait pas les parents sur le dos, elle parlait comme ça aux jeunes. Je dis, ouais, mais les jeunes, vous savez, quand on vit seul, il faut se faire à manger. Il faut laver son linge et tout ça, c'est pas si la liberté que ça. Mais elle a apporté un autre sens à son témoignage. Elle a dit à un moment donné que dans tout ce qu'elle faisait, elle n'arrivait pas à se dégager de certains sentiments de rejet, de colère vis-à-vis de ce qu'elle avait vécu. Et ça ne la quittait pas. C'était des jougs sur sa vie. Et il a fallu une rencontre personnelle avec son Seigneur pour qu'elle comprenne, pour que Dieu vraiment la libère de ses jougs totalement. Le joug du rejet du Père qu'elle n'a pas eu. Le joug de... Elle était en colère. Il y avait vraiment une rage en elle et Dieu l'a totalement libérée de cela. Et les gens autour d'elle ont dit, mais je ne te reconnais pas. Je ne reconnais pas ta vie. Tu es une autre personne. Parce qu'elle avait été libérée de cela. Parce qu'elle avait été libérée de ses jougs d'oppression, d'angoisse. Et le diable nous fait croire que fais tout ce que tu veux, vis ta vie. Mais en faisant ça, il y a des oppressions et des jougs qui se mettent sur ta vie, des angoisses, des peurs. Et ça, le monde ne peut pas l'enlever. Il n'y a que Jésus qui peut enlever ça. Et celui qui se donne entièrement et sincèrement à Dieu reçoit en retour la vraie liberté. La liberté, cette liberté intérieure. Et vous savez, beaucoup de gens pensent que le christianisme, c'est fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. C'est un carcan, et c'est ce que le monde croit du christianisme. C'est un carcan qui nous empêche d'être libres. Ah, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Alors qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on peut trouver la vraie liberté, le vrai repos. Il n'y a que lui qui peut nous le donner. C'est lui le maître du sabbat. Amen. Jésus va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Jésus nous offre quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. J'aurais dû intituler ce message, plutôt qu'entrer dans le repos de Dieu, les offres de Dieu. Les offres qu'il nous fait. Vous savez, Dieu nous offre des choses extraordinaires. Vous pouvez être dans l'endroit le plus paisible du monde et ne pas être en paix. Vous pouvez être dans un endroit le plus idyllique, merveilleux. Je pense à Florian et Mathias qui sont allés dans un endroit magnifique. Ils sont allés faire un safari. Je ne sais pas si je vais le dire, mais vous avez mis sur Facebook, ça va. Ils sont allés dans un endroit magnifique, idyllique, extraordinaire. Hein, vous pouvez être même sur une plage de sable fin avec votre cocktail à la main et être dans l'angoisse. Vous pouvez être un homme puissant ou un homme riche. Et vous savez, la richesse nous donne pas mal de liberté. Quand on est riche, ah, j'ai pas le temps d'aller faire les courses, hop, je paye quelqu'un qui va faire les courses pour moi, j'ai un chauffeur, hop, j'ai pas le temps, il y a trop de bouchons, je prends mon hélicoptère pour aller à Genève. Enfin, vous voyez ce que fait la richesse ? Nous offre la liberté. Mais vous pouvez avoir tout ça et être dans des sentiments intérieurs de prison, d'angoisse, de peur, avec tout ça. On a chanté ce matin, devant le Seigneur, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de masque, parce qu'il voit tout ça. J'ai travaillé dans une usine, avant d'aller à l'école biblique, c'était pour payer mes études. C'était une expérience intéressante de travailler en usine. Parce que ils savaient que je venais pour une année pour travailler, pour gagner des sous et partir. Et ils savaient pourquoi, parce que j'allais faire une école biblique et être pasteur. Donc ça avait l'avantage de tout de suite mettre les choses au clair que j'étais chrétien. Et vous savez, quand on est chrétien, déjà on nous observe plus, on nous regarde différemment, et surtout quand, dans notre comportement, ben, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand on est dans un groupe et que ça commence à critiquer, ben, on ne va pas rentrer dedans. Donc ça va tout de suite être louche, c'est qui celui-là, cet intrus. Et puis il y avait un ouvrier qui n'avait pas sa langue dans sa poche, et qui m'en a fait aussi voir un petit peu, un peu par des moqueries, des choses comme ça. Et je me souviens comment Dieu m'a surpris par rapport à cette personne. En fait, cette personne, elle s'est convertie. Ouais, ben ça, je vous invite à vivre ça. Parce qu'elle a vraiment changé, quoi, vis-à-vis de moi. Et on a commencé à avoir des discussions authentiques et profondes sur la foi. Et il y a une chose qu'elle m'a partagée qui m'a marqué. Elle m'a dit, tu sais, Christian, et essayez juste de vous imaginer la personne qui se fout de vous juste avant et qui maintenant vous parle comme ça. Donc la scène est déjà assez surprenante. Il dit, tu sais, Christian, je réalise une chose, c'est que Jésus m'aide à vaincre ma peur du noir. Il avait peur du noir, ce grand gaillard qui savait bien parler. Ça remonte à ce qu'il avait vécu. Et il me disait qu'il y avait une pièce, on devait aller chercher des pièces, c'était un peu moins éclairé sur la fin. Et il me racontait par rapport à ça, comment Jésus l'aidait à aller dans cette pièce là-bas au fond, qui n'était pas éclairée, pour prendre les choses. Et comment il avait des victoires avec le Seigneur. Incroyable, hein ? Cet homme-là est en train de me raconter ça. Vous ne vous imaginez pas les jougs que les gens portent. Et il n'y a que Jésus qui peut les libérer. Ne jugeons pas l'apparence, mais aidons. Connectons ces personnes à Jésus. Jésus nous offre quelque chose que le monde ne peut pas donner. Et Jésus nous invite ce matin. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez, prenez. Ça implique une notion de choix. Ça implique une notion de prise de position. C'est un acte de foi. On peut avoir l'information ce matin, mais il y a la mise en pratique. Et se dire, il ne se passera rien si je ne viens pas et je ne prends pas. Je n'entrerai pas dans ce repos. Et c'est pour ça que des fois, on a la théorie et on ne vit pas la pratique en tant que chrétien. Et vous savez, ce qui va toucher le monde, c'est quand on va le vivre. Quand on vivra différemment. C'est ça qui va toucher. Quelques promesses, je vous laisse quelques promesses pour terminer, d'exemples, d'instructions qu'on est appelé à prendre. Et il y en a tellement, mais laissez-vous conduire par le Seigneur dans votre relation avec lui. Jean 16, verset 33 dit, « En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Waouh ! Tu as peur ? Ça fait partie de ce monde. Cette détresse, elle est là. Mais il est avec nous. Faisons-lui confiance et tu trouveras une source de repos à tes pensées agitées. Proverbe 4, verset 23. Ce que je te conseille maintenant est plus important que tout le reste. Veille sur tes pensées et tes sentiments, car ils influenceront ta vie. Veillez. Vous vous rappelez la prédication dimanche passé, il y avait cette idée de dormir et être éveillé. Un peu contradictoire. Là, c'est pareil. Il y a la vigilance et je vous parle de repos. Vigilance sur tes sentiments. Ton âme. Mais il y a ce repos qui est attaché à ça. Philippiens 4, verset 8. Portez toute votre attention sur ce qui est bon et digne de louange. On peut s'en épargner des jougs, hein, suivant ce qu'on voit, suivant ce qu'on regarde, suivant ce qu'on fait, suivant ce qu'on dit. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera vous des hommes et des femmes libres. Qu'est-ce qu'il y en a des mensonges aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y en a? Et de vivre dans le mensonge. Quel joug ! On dit un mensonge, on en dit un deuxième pour cacher le premier, le deuxième va être découvert, on en dit encore un deuxième, pour cacher, un troisième pour cacher le deuxième, etc., etc. Et on ne vit pas dans la lumière. Et notre vie est une vie de mensonge. Quel joug ! Philippiens 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Prions. Merci Jésus, parce que tu as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli, tu as tout donné pour qu'il n'y ait plus aucun obstacle à nous approcher du Père ce matin. Qu'il n'y ait plus aucun obstacle qui nous empêche d'entrer dans ce repos avec toi. Tu es là dans ce pays promis et tu nous y attends. Tu es dans cette terre où coule le lait et le miel, Jésus, et tu invites ton peuple à entrer dans cette terre de repos. Mais ça ne se fera pas sans mal. Tu nous invites à saisir par la foi ces réalités. Et on peut rester de l'autre côté de ce merveilleux paysage que Moïse a vu sur cette terre promise, ce repos qui est là, sans y entrer. Alors ce matin, je prie pour chacun et chacune de nous qu'on puisse répondre à ton appel ce matin. De dire, je veux venir et je veux saisir ce que tu me dis ce matin. Et que s'il y a un joug que vous voyez, qui est là dans votre vie, ou peut-être que vous sentez des choses qui ne vont pas et vous ne comprenez pas, demandez au Seigneur et il va vous montrer quels sont les jougs illégitimes qui sont sur vos vies. Et c'est dans ce processus de s'approcher de Dieu, de prendre ce joug du Seigneur, dans cette relation avec lui, que vous aurez la victoire. Seigneur, je prie pour chacun et chacune ici présent, pour chaque enfant, chaque jeune. Merci parce que tu es là pour chacun de nous. Tu es dans cette intimité comme nous l'avons chanté ce matin. Tu es présent par ton esprit, maintenant. Touche nos vies. Amen.